Bonjour à tous, je suis Frédéric Ferry, avocat au barreau de Nancy. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Mastercasts de l'association avec mon avocat Lorraine sur le thème des créations et inventions de salariés, mais à qui appartiennent les droits. En effet, les entreprises sont confrontées de plus en plus à une problématique de recherche et de développement et il nous a semblé effectivement intéressant d'examiner effectivement la question du droit des salariés sur les créations et les inventions. Pour ce faire, nous accueillons aujourd'hui Maître Christophe Oliveira, avocat au barreau d'Épinal et membre de notre association, qui va nous éclairer sur le sujet. Alors, on va commencer par une première idée reçue, c'est est-ce que le salaire couvre toutes les créations et inventions des salariés ? Christophe.
Bonjour à tous. Effectivement, le plus souvent, l'employeur estime être titulaire des droits sur les créations conçues par ses salariés, en contrepartie de la rémunération qui est versée dans le cadre du contrat de travail. Cette logique économique ne correspond pourtant pas au régime juridique applicable aux créations et inventions de salariés. Et donc, malgré le versement du salaire, l'entreprise ne dispose pas toujours des droits de propriété intellectuelle sur les créations réalisées en son sein, de manière subordonnée, par ses collaborateurs.
Donc, il semblerait qu'il y ait une distinction entre deux catégories, à savoir les créations des salariés et les inventions des salariés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les créations des salariés et de quoi parle-t-on par création de salariés ?
Alors, les créations de salariés couvertes par le droit d'auteur sont potentiellement très nombreuses dans une entreprise. Il peut s'agir d'œuvres graphiques, de dessins ou de logos, de design de produits, de plans, de schémas, de supports de communication. Il peut s'agir d'œuvres plus littéraires telles que des rapports, des études ou des comptes rendus, mais aussi, et dans l'actualité, des logiciels, des bases de données ou des sites internet. La protection par le droit d'auteur est toutefois suspendue à deux exigences. L'originalité de la création, qui doit porter l'empreinte de la personnalité de son auteur, et puis la matérialisation de cette création. Sont exclues de la protection les idées, les simples concepts ou les créations dénuées de toute originalité ou de nouveauté que l'employeur peut librement exploiter.
D'accord, donc une fois qu'on a défini que c'était véritablement une création et pas simplement une idée saugrenue, à qui appartient cette création ?
Frédéric, si la propriété physique de l'objet ou du document réalisé appartient à l'employeur, en contrepartie du salaire qu'il a versé, il en va autrement des droits de propriété intellectuelle afférents à ses créations. Le principe en la matière est que le salarié, et non son employeur, est considéré comme l'auteur de l'œuvre, et donc c'est lui qui détient les droits de propriété intellectuelle. L'existence d'un contrat de travail, le versement du salaire ou la fourniture de moyens pour parvenir à la création n'emporte aucune dérogation à ce principe. Ce principe est d'ailleurs régulièrement rappelé par les tribunaux, et par voie de conséquence, l'employeur qui souhaite exploiter la création individuelle de son salarié doit se faire céder les droits dans les conditions prévues par le Code de la propriété intellectuelle, et sauf à commettre des actes de contrefaçon.
Donc on n'est absolument pas dans l'idée reçue effectivement que tout le monde a, à savoir que l'employeur est propriétaire de toutes les créations du salarié. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des exceptions à ce principe de propriété par le salarié des créations ?
Alors si, il y a plusieurs exceptions, on va en citer deux principalement. La première, c'est l'œuvre collective, qui est définie par le Code de la propriété intellectuelle, comme l'œuvre dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs se font dans un ensemble sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. Dans ce type d'œuvre, les différentes contributions des auteurs se mêlent, si bien qu'on ne peut les identifier personnellement. Dans ce cas, l'œuvre collective appartient uniquement à celui qui en prend l'initiative, coordonne les travaux et la divulgue. Les créations de salariés peuvent donc répondre à cette qualification d'œuvre collective, dès lors que la création obtenue est le fruit d'un travail commun, demandé par l'employeur, réalisé avec les moyens de l'entreprise et sous son contrôle, aux fins d'une divulgation et ou d'une exploitation par l'entreprise. Dans le cadre de cette œuvre collective, la loi prévoit que c'est l'employeur qui a investi des droits d'auteur dès l'origine.
Alors comment peut s'organiser justement l'employeur ? Parce que ça lui permet de défendre ses droits sur ses œuvres collectives.
C'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer les modalités de création des œuvres collectives. Cette preuve peut par exemple être rapportée par l'existence d'une clause dans le contrat de travail qui rappellerait les droits de l'entreprise sur les créations réalisées par plusieurs salariés sur les directives de l'employeur. Les instructions données pour la réalisation de ces créations doivent peuvent par exemple être formalisées par écrit et doivent être conservées. Il peut s'agir de notes de service, de comptes rendus de réunion, qui permettent d'établir que la création a été réalisée dans un cadre collectif.
D'accord, donc on a bien compris que si une œuvre est faite collectivement, ça peut appartenir à l'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres exceptions ?
Bien sûr, parmi les autres exceptions notables, il y a les logiciels, puisque le Code de la propriété intellectuelle énonce que les logiciels conçus par les salariés dans le cadre de leurs fonctions ou d'après les instructions de leurs employeurs appartiennent dès l'origine à ces derniers, sans supplément de rémunération.
D'accord, très bien. Donc, si on résume, normalement, c'est le salarié qui est censé être propriétaire, sauf quelques exceptions. Si le salarié est propriétaire, comment l'entreprise peut éventuellement récupérer les droits sur les créations qui sont faites ?
Il n'y a pas plusieurs solutions, il n'y en a qu'une. Il faut envisager une cession des droits. Et le législateur soumet d'ailleurs les cessions de droits de propriété intellectuelle à un formalisme particulièrement rigoureux. Chacun des droits cédés doit être détaillé dans l'acte et le domaine d'exploitation de chaque droit cédé doit être précisément déterminé quant à son étendue, sa durée, son lieu ou sa destination. Une cession tout droit compris ou d'ordre général serait illégale.
D'accord. Donc il faudrait effectivement un accord formel des salariés à chaque cession. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement des organisations qu'on peut mettre en place ou des choses à éviter ? Pour justement qu'il y ait une certaine automaticité, si on peut dire ça comme ça, de la cession effectivement des droits.
Oui, effectivement, une cession par création présente plein d'inconvénients, puisque la ratification d'un accord reste suspendue à chaque fois à l'accord formel du salarié, qui constitue un temps de négociation qui, a priori, est favorable au salarié pour la cession de chacun de ses droits. Alors, la pratique s'est saisie de cette difficulté d'ordre matériel. Et on observe que se sont généralisées des clauses qui organisaient par avance la cession de l'intégralité des droits sur les créations des salariés pour l'avenir. La difficulté est qu'une telle clause est dénuée d'effet en raison de l'interdiction posée par la loi de cession globale des œuvres futures. Selon cette règle, un auteur, au cas particulier lorsqu'il est salarié, ne peut pas s'engager à céder par avance l'intégralité des droits découlant des œuvres qu'il va réaliser dans le cadre de son contrat de travail. En revanche, il est possible de prévoir que la cession des droits se produira non pas au moment de la conclusion du contrat de travail, mais au fur et à mesure de chaque création. Cette clause apparaît alors comme une promesse de cession et non comme la cession anticipée d'une œuvre future. Et ce dispositif, déjà discuté devant les tribunaux, a déjà été validé par la jurisprudence. Et par le jeu de cette clause, l'entreprise est dispensée de contractualiser chacune des cessions et sécurise ainsi dès le début une cession des droits au moment de l'entrée en collaboration avec le salarié.
D'accord, donc on peut organiser contractuellement avec le salarié cette cession. Alors quand on dit cession, évidemment il y a la problématique du prix de cession. Alors est-ce que c'est un prix de cession, c'est un supplément de salaire, comment ça s'organise ?
Alors effectivement c'est un sujet qui est très stratégique, c'est que est-ce que cette cession des droits doit donner lieu à une contrepartie ? La loi permet qu'une cession puisse être effectuée à titre gratuit, mais ce qui peut poser des difficultés, notamment d'ordre fiscal, puisque ça peut être perçu et qualifié de libéralité. La jurisprudence a par ailleurs admis que la rémunération de la cession pouvait être incluse dans le salaire versé, mais en pratique, ce qu'on observe et ce qu'on recommande, c'est que la cession des droits fasse l'objet d'une rémunération distincte du salaire, qui est formalisée dans l'acte de cession ou dans le contrat de travail. Ce complément de rémunération, d'ailleurs, peut être envisagé comme un élément de stimulation des salariés concernés et les amener à être beaucoup plus créatifs. La deuxième chose, c'est que, selon la loi, une rémunération au titre d'une cession de droit doit être proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre. Toutefois, là encore, il y a des exceptions et une rémunération forfaitaire peut être envisagée au titre de la cession des droits, et notamment lorsque la nature ou les conditions d'exploitation de l'œuvre rendent impossible l'application de la règle de rémunération proportionnelle. Par exemple, une création réalisée par un salarié mais qui est utilisée uniquement en interne dans l'entreprise peut ne pas donner lieu à l'application de la règle proportionnelle en pratique et justifierait une rémunération forfaitaire.
Très bien. Et du point de vue fiscal et social, ça donne quoi cette rémunération ? C'est comme un salaire normal ?
Absolument. Donc elle est soumise à des cotisations sociales et soumise à l'impôt sur le revenu pour le salarié concerné.
D'accord. Bon, enfin, le salarié, il n'est pas forcément forcé, on va dire, d'être d'accord. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe en cas de litige ?
En cas de différend sur la titularité des droits, sur la création du salarié ou sur le montant de la rémunération qui lui est versée au titre de cette cession des droits, ce sont les tribunaux judiciaires qui vont être compétents, puisqu'il y a une compétence spéciale en matière de propriété littéraire artistique. Et ce ne sont pas les prud'hommes, normalement compétents pour les litiges entre employeurs et salariés, qui pourront statuer sur ces litiges.
Ok, donc en résumé, sur les créations, on a bien compris que sauf exception, c'est propriété du salarié et que l'entreprise peut éventuellement la récupérer après négociation avec le salarié et conclusion effectivement d'un certain nombre de conventions. On a a priori une deuxième catégorie, c'est la catégorie des inventions de salariés. Et que se passe-t-il dans le cadre de cette deuxième catégorie ?
Alors pour les inventions de salariés, on quitte le monde du droit d'auteur et on entre maintenant dans le domaine des créations industrielles. Alors quand on dit création industrielle, on parle d'inventions technologiques, de nouveaux procédés de fabrication dans des domaines aussi variés que l'industrie pharmaceutique, les industries lourdes. Ça peut même être dans certaines situations applicables aux logiciels ou aux créations informatiques. Dans le domaine des créations industrielles et donc des inventions de salariés, la loi a prévu un régime spécifique plus favorable a priori à l'employeur. Ce régime applicable aux inventions concerne donc les inventions réalisées par des salariés qui sont liés à leur employeur par un contrat de travail, et ça concerne donc également les dirigeants de salariés. Et il est important de préciser que ce régime ne s'applique qu'à ces personnes-là et sont exclus de ce dispositif, donc les dirigeants non salariés, mais aussi des personnes qui, au sein d'une entreprise, peuvent régulièrement être amenées à créer des choses. Et ce sont par exemple les stagiaires ou les intérimaires qui ne sont pas couverts par ce régime des inventions de salariés. Une fois qu'on a identifié les catégories de personnes concernées, petit rappel rapide sur ce qu'est une invention et une invention brevetable. On parle d'une innovation qui doit être nouvelle, appliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle. Ce sont les critères posés par le Code de la propriété intellectuelle pour envisager la brevetabilité d'une invention. Et si la création du salarié est brevetable, la loi organise une classification des inventions en trois catégories pour ce qui concerne sa propriété.
Voilà, alors justement, effectivement, déjà peut-être un exemple sur une invention brevetable, parce que dans vos dossiers, vous avez eu des exemples marquants, on va dire.
Alors, il y a le domaine de l'invention brevetable est assez large. Dans les exemples récents que j'ai eu à traiter, ça peut être du matériel industriel, des machines qui permettent, par exemple, la pasteurisation dans le domaine laitier. Ça peut être une fibre textile ou ça peut être aussi une application pour des smartphones qui, contrairement aux idées reçues, en fait, l'invention de logiciels n'est pas brevetable, mais on peut, selon certaines, on va dire, circonstances, réussir à contourner cette interdiction et on peut protéger par brevet des créations informatiques.
Très bien. Alors revenons effectivement aux trois catégories d'inventions. Alors la première catégorie, c'est l'invention de mission.
Tout à fait. Les inventions de mission sont définies comme des inventions réalisées par un salarié dont le contrat de travail comprend ce qu'on appelle une mission inventive. On vise par exemple le cas des ingénieurs salariés d'un bureau d'études. Mais la notion est un peu plus large, puisque l'invention de mission inclut également des inventions réalisées par un salarié dans l'exécution d'études et de recherches qui peuvent lui être temporairement ou exceptionnellement confiées par son employeur, via une note de service, alors même que ses fonctions habituelles ne comprennent pas de mission inventive. La qualification d'invention de mission est particulièrement importante, puisqu'elle permet à l'employeur de se voir attribuer les droits sur l'invention du salarié dès l'origine. Néanmoins, il y a une contrepartie, c'est que l'employeur est tenu de verser au salarié concerné une rémunération dite supplémentaire, qui est déterminée selon des modalités prévues soit dans la convention collective applicable, soit dans un accord d'entreprise pour les structures d'une certaine taille, ou dans le contrat de travail. Le salarié a droit à cette rémunération dite supplémentaire pour chaque invention réalisée, laquelle ne peut être incluse dans le salaire, et une rémunération est due même si l'invention ne présente pas d'intérêt exceptionnel pour l'entreprise. Il faut savoir qu'à défaut de dispositions conventionnelles donc prévoyant ces rémunérations, les modalités doivent être prévues dans le contrat de travail ou négociées au cas par cas, selon un certain nombre de critères qui ont été mis en évidence par les tribunaux. Ils sont au nombre de trois. Le premier critère, ce sont les difficultés techniques rencontrées dans la mise au point de l'invention, compte tenu de l'état de la technique. En clair, est-ce que le salarié a amélioré une invention connue ou est-ce qu'il a créé une invention de rupture qui est totalement novatrice par rapport à l'état de l'art ? Le deuxième critère qui est fréquemment retenu, c'est le niveau de contribution personnelle originale du salarié. Est-ce qu'il a réalisé seul l'invention avec le concours d'autres personnes au sein de l'entreprise, auquel cas la rémunération supplémentaire est diluée en fonction du nombre de collaborateurs. Dernier critère, c'est l'intérêt commercial ou industriel de l'invention. Si l'invention n'est jamais exploitée par l'entreprise, même si elle revêt sur le plan théorique un intérêt fondamental, il en sera tenu compte dans la rémunération supplémentaire. Okay. Sur les modalités, la rémunération peut être forfaitaire ou variable, c'est indifférent.
Très bien. Donc ce qu'on peut dire, c'est que si une entreprise embauche un salarié qui a une mission inventive, il est préférable, on va dire, de prévoir les conditions de rémunération dans le cadre du contrat de travail et de les avoir négociées au préalable. Mmh. On est d'accord là-dessus. Par contre, notamment si on n'a pas fait ces clauses particulières, en cas de désaccord entre l'employeur et le salarié, notamment sur le montant de la rémunération, comment ça peut se dérouler ?
Alors, on peut être dans un schéma assez classique où on va saisir les tribunaux. Alors, on peut souligner que c'est dans ce domaine-là, la compétence est attribuée aux juridictions spécialisées en matière de brevets. En l'occurrence, c'est le tribunal judiciaire de Paris. Mais il y a un mécanisme propre à la question des inventions de salariés qui est prévu. C'est la possibilité de saisir une commission spécifique qui s'appelle la Commission nationale des inventions de salariés, qu'on connaît plus communément sous le nom de CNIS. Donc c'est une commission qui est composée de représentants d'employeurs et de salariés, puisqu'on est dans le cadre du travail, et qui est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Et c'est une procédure qui est très intéressante, puisque, à la différence de la voie naturelle judiciaire, cette procédure est gratuite, peu formaliste et très rapide, et aboutit à des solutions très, très reconnues et très efficaces, et qui font autorité pour l'évaluation de cette rémunération supplémentaire.
Ok. Dans une entreprise, il n'y a pas que des salariés qui ont une mission inventive. Alors, pour les autres salariés, est-ce qu'on a effectivement des dispositions concernant les inventions brevetables, notamment, a priori, sur les deux autres catégories, c'est-à-dire la deuxième catégorie, donc vous allez vous en parler, c'est effectivement les inventions dites hors mission attribuable.
Tout à fait. Donc, un salarié qui n'a pas de mission inventive, son invention peut revenir à l'employeur ou lui être attribuée. Il lui appartient à l'employeur de démontrer que cette invention a été réalisée dans le cadre du travail, soit dans le cours de l'exécution des fonctions du salarié, soit dans le domaine des activités dans l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques et de moyens technologiques spécifiques à l'entreprise ou de données techniques procurées par elle. Et dans ce cas-là, l'invention n'est pas rattachée à une mission, mais peut être attribuée à l'employeur. Il y a néanmoins une condition à respecter, c'est que l'employeur, le chef d'entreprise, est tenu de verser au salarié un juste prix pour se faire attribuer cette invention. Et la difficulté, c'est que ce juste prix n'est pas déterminé par la loi et doit être convenu au cas par cas s'il n'est pas envisagé par la convention collective ou l'accord d'entreprise. Les critères retenus pour les inventions de mission au titre de ce juste prix trouvent également à s'impliquer. Donc on va s'intéresser aux difficultés techniques rencontrées par le salarié pour la mise au point de cette invention au regard de l'état de l'art. On va s'intéresser aussi à l'intérêt commercial ou industriel de l'invention. Et de la même façon, les modalités de règlement de litige sur les inventions hors mission dites attribuables sont identiques à celles qu'on a exposées sur les inventions de mission.
D'accord. Cette catégorie, est-ce qu'on peut la contractualiser dans le cadre d'un contrat de travail ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être prévu en termes de clauses ?
Absolument. On peut sensibiliser et informer le collaborateur dans le cadre de son contrat qu'il peut être amené à développer des choses en dehors de ses fonctions, mais que si elles interviennent dans le cadre que j'ai indiqué, c'est-à-dire dans le cadre de ses fonctions ou des domaines de l'activité de l'entreprise, l'entreprise peut demander l'attribution de cette invention.
Très bien. Alors après, on a une troisième catégorie, là c'est la catégorie des loisirs, c'est le salarié qui va effectivement réussir à établir une invention hors mission et non attribuable. Donc ça c'est la troisième catégorie.
C'est bien ça, ce sont les inventions donc réalisées par le salarié qui n'a pas de mission inventive, en dehors de son contrat de travail, avec ses propres moyens dans un domaine d'activité qui n'est pas celui de son employeur. Dans cette situation, l'employeur ne dispose d'aucun droit d'attribution. Le salarié est donc totalement libre d'exploiter l'invention lui-même, de céder ou d'en concéder des brevets, à qui il voudra, et pourquoi pas à son employeur. Et dans cette situation, le prix est librement déterminable et relève de la pure négociation entre l'entreprise et son collaborateur.
Ok. Donc, en pratique, effectivement, dans les deux premières catégories, si on revient sur les deux premières catégories, la question qu'on peut se poser, c'est comment l'employeur va savoir que le salarié a établi effectivement une invention brevetable.
Ouais, c'est bien fait de ce point de vue-là, puisqu'elle met en place une obligation d'information à la charge du salarié qui doit déclarer sans délai son invention à l'employeur. Il y a même un formulaire qui existe, qui est proposé par l'INPI en la matière. Cette réalisation donc, du salarié peut être réalisée soit directement auprès de l'employeur, soit par l'intermédiaire de l'INPI, Institut National de la Propriété Intellectuelle. Le salarié va faire une proposition de classement de l'invention et l'employeur peut la discuter. La déclaration, point important, impose à chacune de parties de s'abstenir de toute divulgation relative à l'invention, puisque toute communication autour de cette innovation serait de nature à détruire le critère de nouveauté et donc à faire échec à la délivrance d'un brevet. À compter de la réception de la déclaration, l'employeur peut donc, comme je l'indiquais, contester le classement proposé par le salarié et donc considérer qu'il s'agit d'une invention de mission et non, par exemple, d'une invention hors mission attribuable, et donc exercer le droit d'attribution s'il considère qu'il s'agit d'une invention hors mission attribuable. En cas de litige, encore une fois, le salarié ou l'employeur peut décider de saisir le tribunal compétent en matière de brevet, soit de recourir à une tentative de conciliation devant la CNIS.
D'accord. Donc, si on résume l'ensemble effectivement du sujet évoqué, on peut dire effectivement que les inventions de mission sont la propriété de l'employeur et les autres inventions, on va dire, appartiennent en principe aux salariés. Alors, face à ces différentes situations, quelles peuvent être effectivement les recommandations qu'on peut faire à l'égard de l'employeur ?
Alors, le maître mot en la matière, comme dans beaucoup de sujets juridiques, c'est d'anticiper. Anticiper, ça veut dire quoi ? C'est évidemment de border les relations avec les collaborateurs de manière écrite, c'est-à-dire dans leur contrat de travail. Plusieurs recommandations à ce titre. D'abord, c'est à travers le contrat d'identifier et de formaliser les conditions dans lesquelles les collaborateurs sont amenés à réaliser des créations ou des inventions, notamment s'ils le font dans un cadre collectif ou individuel. On va également poser, dès le contrat, le régime des droits sur les créations ou inventions en fonction des missions confiées aux salariés ou du cadre de travail dans lequel il évolue. Et là encore, rappeler aux salariés qu'il évolue dans un cadre collectif, ce qui peut créer des présomptions ou des indices sur, par exemple, on l'a exposé, une œuvre collective. Autre recommandation, c'est de rappeler et de renforcer contractuellement l'obligation d'information du salarié concernant toute création ou invention qu'il pourrait créer ayant un lien direct ou indirect avec sa fonction ou le domaine d'activité dans l'entreprise. Et puis dernière recommandation, c'est d'anticiper également les discussions qui sont souvent les plus difficiles sur l'aspect rémunération et contrepartie, c'est de déterminer en amont les modalités de rémunération ou de détermination de rémunération applicables à la cession ou à la dévolution d'une invention ou d'une création de salariés.
Très bien. Et bien évidemment, tout ce travail, cette stratégie doit être définie avec son avocat. Merci beaucoup, Maître Christophe Oliveira, pour toutes ces précisions. C'est l'heure de nous quitter. Donc merci de votre écoute et rendez-vous à un prochain Mastercast avec l'association Avec mon avocat Lorraine. Merci à vous.